Vous écoutez France Culture.
Hier, Denis Borda, militant historique des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CMEA, nous a raconté sa jeunesse dans les années 30 dans la colonie de vacances communiste de la ville d'Ivry, mais aussi, enfin de la ville communiste d'Ivry, mais aussi son engagement dans la formation des moniteurs de colonies. Demain, nous écouterons des archives audiovisuelles inédites issues du fonds du pôle audiovisuel des associations de jeunesse et d'éducation populaire, le PAGEP, et traiterons donc des colonies dans les années 50 et 60. Jeudi, notre débat portera sur la période de naissance des colonies de vacances entre la fin du 19e et le début des années 30. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire du mardi signé Catherine Pétillon et Charles Trou nous raconte donc l'histoire d'un lieu, le château de Corvol-l'Orgueilleux, qui accueillit de jeunes juifs donc du mouvement laïque du SKIF, issu du Bund, le parti juif socialiste et laïque fondé à la fin du 19e siècle en Pologne. Beaucoup de ces enfants avaient perdu leurs parents pendant la Shoah et pour eux, ce château résume à son résumé, à son nom, Corvol veut tout dire. Amitié, reconstruction, solidarité, fraternité, apprentissage aussi d'une culture, le yiddish, qui risquait de disparaître. C'est l'histoire de cette création que nous raconte jusqu'à 10h Corvol, la camaraderie en yiddish, le documentaire de Catherine Pétillon et de Charles Trou, avec les témoignages de Joseph Amiel, de Charles et Henriette Bagès, de Maurice Baige, de Jacqueline Glucksmann, de Léa Mizeles et de Rose Zilberg.
C'est le château blanc des contes de fées, avec ses tourelles, avec les clochetons, avec un parc avec des arbres majestueux, le bosquet tout au fond. Enfin, c'était vraiment, on s'était complètement approprié. Je me souviens que à mes camarades de classe, je disais « j'ai un château ». Et je montrais la carte postale. C'était mon château.
C'était le parc. On aimait le parc. Hein, on faisait des petites cabanes. Il y avait une petite rivière, comme une petite rivière, un petit ruisseau avec un pont par-dessus où on allait. Et puis c'était notre château. Quand on arrivait, qu'il y avait il y a des endroits sûrement plus beaux que là. Et pas à nos yeux. Quand on voyait le tournant. Et le château qui arrivait, c'était une explosion de joie. Ça a été un coup de foudre et ça a été une histoire extraordinaire.
Corvol, la camaraderie en yiddish. Nous arrivons, chantent les enfants du Bund. Ferme et sûr est notre pas, Mirkoumenon. Créée en 1897, l'Union Générale des Ouvriers Juifs de Pologne, de Russie et de Lituanie, le Bund, se développe d'abord contre le régime tsariste. Très vite, quelques dizaines de milliers de personnes se rassemblent derrière le drapeau rouge de ce parti socialiste, juif, laïque, et antisioniste. En France, le Bund s'implante en 1907, bientôt accompagné de toute une série de ramifications, répliques des organisations créées en Pologne. Mouvement des femmes ouvrières juives, mouvement de jeunesse, et pour les plus petits, l'Union des enfants socialistes, le SKIF. Corvol-l'Orgueilleux, un petit village de la Nièvre non loin d'Auxerre. Au bout de l'unique route qui traverse la commune, derrière de grandes grilles, se dresse un château, celui de la Colo. C'est là qu'après-guerre, Léa Mizeles a vu renaître le SKIF.
Et c'était encore l'époque où on levait le drapeau rouge et on chantait l'amitié. Ils avaient la chemise bleue, l'écharpe rouge. On faisait la grande chaîne et on chantait tous ensemble avant d'aller prendre le petit déjeuner. Moi, mon père était un vieux bundiste. Hein. Il m'a toujours inculqué ça, le partage, le socialisme, un monde nouveau. On y croyait, hein, vraiment, qu'après toutes ces années d'enfermement, que le monde allait arriver, où on serait tous frères, tous sœurs et tous unis. Pour nous, ça a été d'être ensemble, partager des idées, un idéal. Hein. C'était quelque chose de vital, de reconstruction aussi pour nous après la guerre. Hein. Puis un idéal, vous rendez compte, le socialisme, seul le socialisme va nous sauver, va nous reconstruire, c'était quelque chose.
Ça c'est une photo qui a été prise à Corvol. Hein. Ah non, c'est une vieille photo ça. Et... ça c'est Cécile hein, Steingart et ça c'est Henri Steingart. Ce sont les fondateurs du Skiff en France. Parmi les fondateurs, parce qu'il y avait Jean-Jos Hilbert aussi. Et puis d'autres. Hein. Ah oui, celle-là, oui, celle-là, je vois bien. C'est à Paris, je pense que c'est rue Vieille du Temple. Rue Vieille du Temple, parce que nous avions un local qui n'existe plus. Enfin, l'immeuble existe toujours, il est superbe. 110 rue Vieille du Temple. Et nos réunions se tenaient là.
Charles Bagès, comment vous avez... connu le Skiff, comment vous vous êtes investi dans les activités du Skiff?
En fait, la première fois que j'ai entendu parler de l'éventuelle possibilité d'aller dans une colonie qui s'appelle Corvol, c'est en 1946-47. J'étais dans une maison d'enfants tout de suite après la guerre, donc j'ai été dans cette maison d'enfants pendant plusieurs années. Et puis, une de nos monitrices, qui s'appelle toujours Jacqueline, elle nous a dit, bon, l'été prochain, vous irez peut-être, enfin, ceux qui le souhaitent et puis qui ont l'âge d'y aller, à Corvol. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous a un peu parlé du Skiff et de Corvol, qui n'existait pas encore en tant que colonie. C'était vraiment
un projet.
Toi, tu as entendu parler du Skiff à peu près à la même époque.
Moi, c'est un peu différent parce que ma mère faisait déjà partie de l'organisation, enfin du Bund, à Varsovie, avant d'émigrer à Paris. Elle faisait partie de ce qu'on appelait le Zukunft, l'avenir. Enfin, elle était toute jeune, la jeunesse du Bund. Et donc, elle était déjà dans cette mouvance. Et après la guerre, quand, avec ma sœur, on est revenu parce qu'on était cachés dans le Loir-et-Cher, quand on est revenu à Paris, alors j'ai commencé à aller au patronage rue de la Mare. Et ensuite, tout naturellement, les enfants qui grandissaient, on passait au Skiff. Et le Skiff, c'était une ouverture sur le monde. On se libérait des contraintes quotidiennes pour voir autre chose. Parce qu'il faut vous dire que notre famille a été décimée pendant la guerre. Nos pères respectifs ne sont pas revenus d'Auschwitz. Ma mère est restée seule avec 3 enfants. Donc la vie était assez difficile. Et certains dirigeants faisaient office de figure paternelle, en quelque sorte. Sur le plan psychologique, ça a été extrêmement important. Et c'est le Skiff qui nous a permis de nous reconstruire après la guerre.
On y a appris l'amitié, la solidarité, on a appris... Ce sont des mots qui peuvent paraître creux, mais pour nous, ça a vraiment un sens. Les amis qu'on a toujours, et qui sont très nombreux, ce sont des amis de cette époque.
Alors, vous-même, vous vous êtes rencontrés à Corvol ?
Ah, on s'est connus, oui, on avait 12 ans et demi, on se connaissait. oui, mais on a commencé à se voir un peu plus régulièrement, disons...
En été 1952.
Voilà.
On avait 18 ans, à peine.
Oh, Emmerle, Klaas, Schlockstarre, Kerat, Schwab, Norat, Schwab, keine Bräut, diesene Stub, schöne Nord-Zores, une leider n'abrait. Doch starker dich weg es lagir. Diese Morgen muss partir schöne sein.
Quand on dit Jacqueline, c'est moi. Jacqueline Gluckstein, née Schindler. Voilà, j'ai 80 ans passés. Et quand j'étais la première fois au Skiff, je n'avais pas tout à fait 16 ans. J'ai fêté mes 16 ans au Skiff. Mes parents faisaient partie du Bund et les autres qui s'occupaient du Skiff aussi. En fait, c'était des enfants de Bundistes qui ont voulu reproduire un petit peu ce qu'il y avait eu en Pologne. Donc on s'est retrouvés à peu près tous de la même... Mais nous n'étions pas nombreux. On a commencé à se réunir, je crois qu'on a fait la première sortie le 1er mars 1945. Et il y avait Cécile et Henri, qui étaient eux les promoteurs, qui eux, avaient déjà travaillé au Skiff en Pologne, et qui étaient venus en France en 1933-1934, et qui voulaient donc refaire un Skiff à l'identique, et qu'il avait refait avant-guerre. Il y avait un Skiff avant-guerre en France, mais sans château, bien sûr, hein, il n'y avait pas de château. Et donc ils ont réuni quelques personnes qu'ils connaissaient plus ou moins, et puis on a commencé donc à faire des sorties, à faire on se réunissait au local qui existait à l'époque à Paris, 110 rue Vieille du Temple, qui était l'adresse connue, on allait au 110. Les enfants, on les voyait 2-3 fois par semaine. Ils venaient faire leurs devoirs, on fêtait les anniversaires ensemble, on écrivait les lettres, il y avait des lettres. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis au moment de l'été, il fallait bien les emmener quelque part.
La priorité, c'était les enfants de déportés qu'il fallait absolument prendre en main, choyer, gâter, leur donner les parents qu'ils n'avaient plus. Et il y en avait des centaines comme cela, et répartis un peu entre toutes les organisations. Et il fallait leur donner un substitut de grand frère, de père, de mère. Alors pour ça, on était prêt à tout. Si bien que lorsqu'on a acheté Corvol l'Orgueilleux, c'était pour donner aux enfants un lieu où ils... pourraient s'ébattre, se connaître, être heureux en colonie de vacances, entre eux, etc. Il faut dire qu'à l'époque, le Bund achetait, recevait beaucoup d'argent, les syndicalistes, mais ce n'était pas la seule organisation, hein, des syndicalistes juifs américains, et comme toutes les organisations juives, comme les organisations sionistes, communistes, le Bund achetait des maisons pour les enfants des déportés. Et le Bund a ainsi acheté des maisons au Mans, ou à Maison-Laffitte, à Brunois, à Beaugève ensuite, hein, dans les Alpes. Et c'était des maisons qui souvent étaient achetées aux enchères. Et en ce qui concerne Corvol l'Orgueilleux, c'était un château qui appartenait au baron de Villette. Et pendant la guerre, il a hébergé des soldats allemands, enfin toute une commandanture là-dedans. Était-il obligé de le faire ou pas, ça je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est qu'à la libération, il a été condamné à l'indignité nationale et son château a été confisqué et vendu au domaine. Mais dans un tel état que personne n'en voulait, c'est le Bund qui l'a acheté pour 1 million. Et évidemment, 1 million de francs de cette époque, hein, c'était quand même de l'argent, hein. Je gagnais à l'époque 8000 francs par mois, payé d'avance par le Bund. C'était formidable pour moi. Et c'était un très, très bon salaire à l'époque. Et alors, il y avait un notaire qui était le notaire du Bund, qui était Maître Jamard, 25 boulevard des Italiens, que je l'ai bien connu à cette époque. Et donc, j'ai été lui porter 2 briques d'1 million. Ces briques venaient de la Banque de France, scellées. 1000 billets de 1000, à l'époque il y avait des billets de 1000, je lui apportais dans des filets à provisions, entourés de vieux journaux, je n'ai jamais eu autant d'argent qu'à ce moment-là, et il me rappelait après pour me rendre la monnaie, parce qu'il y avait 1 million pour les domaines, et il y avait tous les frais qui s'ajoutaient. Et quand Corvol, par Cécile et Henri Steingart, lorsqu'ils se sont rendus sur place, ils sont venus, ça je me souviens, ils étaient... À la fin 46, c'était, ou début 47, je crois, ils étaient affolés parce qu'ils ne voyaient pas le château de la porte d'entrée, tellement l'herbe était haute. Enfin bon, ils exagéraient peut-être, mais ils étaient dans un état lamentable. Il fallait faire vraiment beaucoup de travaux.
La première fois, le premier jour qu'ils sont arrivés, ils ont couché là-bas, dans la remise, dans le foin, dans la paille. Ils étaient 3 ou 4. Et puis ils sont arrivés dans la journée, donc au château, bon ben, Ils ont peut-être ben, ils ont déposé leur enfin, ce qu'ils avaient, quoi. Puis Corvol est par là. Nous ici, c'est, on fait partie de Corvol. Ça, le village là aussi, c'est des hameaux du village, mais Corvol est là. L'arrivée des premières personnes, je les vois toujours, hein, je les vois comme je vous vois là.
Alors, Marcel Jarreau, vous habitez depuis que vous êtes petit dans une maison qui jouxte le château de Corvol, le château
oui,
qui
est. Bah, c'était la ferme du château. À l'époque, le comte, enfin avant que mon père arrive ici locataire, c'était le comte de Villeneuve qui l'exploitait. Avec du personnel, évidemment. Ben, moi, je suis né là, moi. À l'époque, on n'allait pas à la maternité. Hein. C'était la sage-femme qui venait. Nous, on était quatre enfants, on est nés tous les quatre là. Depuis 1937, je suis là.
Et alors, qu'est-ce que c'est devenu après ce château ?
Oh, ben, le château, il a été, le comte de Villeneuve l'a vendu dans les années 40, peut-être, par là. Moi, j'étais gamin, j'entendais dire autour de moi que c'était peut-être un espion qui avait acheté ça à l'époque. Ben, je sais pas, c'était la guerre à l'époque. Hein. Alors, oui, ben.
Parce que,
Et puis, il y a les Allemands qui ont séjourné aussi. Les Donc. Allemands, puis après, même la résistance aussi, à la suite. C'était délabré, suffisamment délabré même. Et puis, c'est en 1947 que l'association l'a racheté, quoi. À l'époque, j'avais 10 ans, hein. Alors c'était plutôt avec mes parents qu'ils ont eu affaire. Hein.
Mais à l'époque, quand même, vous saviez que c'était une colonie d'enfants juifs.
Hein. Ah oui, ah ben oui. Ben d'ailleurs, la pancarte, je ne sais pas si elle est toujours à la porte là où vous l'avez vue. Hein. Mm. On est tellement habitués, nous, on n'y fait plus attention. C'était le foyer Ica. C'était une héroïne juive de la résistance que j'avais vue, moi. C'était morte au fort de Romainville. Et puis, ah ben ça, on a toujours su que c'était des juifs, quoi. Oui, mais enfin...
Chère maman, comme je t'ai promis, je te relate ce qui s'est passé depuis que je t'ai quitté. Le voyage a été pour moi très fatigant. Dès que je suis arrivée, je me suis déshabillée, pas entièrement, mais mon manteau et mes chaussures. Au repas, je n'avais pas faim. J'ai mangé un peu de soupe, puis je suis montée me coucher. Ce matin, je n'ai pas déjeuné. À midi, le docteur est venu. Il m'a pris ma température. J'ai 37,8. Il m'a ausculté et a dit à Rachel qu'il me fallait un très léger régime. Enfin, j'ai mangé un beefsteak, quelques pommes de terre et une orange. Et maintenant, je t'écris ces quelques lignes. Je termine ma lettre. 1000 baisers à toi et à Mimi. Claude.
Ouais, ça pousse vite, hein. Là, c'est vrai que là, il y a une vue superbe du château, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez, avec les arbres qui maintenant cachent beaucoup le château, mais les tourelles qu'on distingue, enfin, moi, je trouve que c'est très joli. C'était une demeure bourgeoise, et pour nous, ce n'est pas une demeure bourgeoise, c'est Corvol. Donc, ça ne se décrit pas, Corvol, ça se voit.
Là, Maurice Bach, ce parc, c'est aussi le lieu où vous avez passé beaucoup de temps pendant vos colonies. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite des lieux ?
Je vais essayer de vous faire la visite des lieux. C'est bon, là ? Voilà, donc ici, c'était le terrain de foot. Et là, derrière le bosquet, c'était le terrain de volley. Et il y a aussi cet endroit... un peu mythique, qui est le bosquet. C'est le bosquet. À l'époque, effectivement, ce bosquet qui est minuscule, moi, ça me semblait beaucoup plus grand que je ne le vois aujourd'hui. Ça, c'est sûr.
Mais là, quand vous venez pour la première fois au château de Corvol, comment vous arrivez jusqu'ici ? Vous veniez de Paris à l'époque ?
Oui, bah, bien sûr, je venais d'une vie parisienne plutôt difficile. Et voir ici un château qui fait 300 mètres carrés au sol, sur trois niveaux, c'était extraordinaire. Et on venait pour s'amuser, on venait pour chanter, on venait pour danser, on venait pour se détendre. Voilà, donc
tout ça faisait que ça ne pouvait être que formidable.
Levait le matin, on allait au drapeau, on levait le drapeau rouge, on chantait un chant et puis on lisait le programme de la journée. Il y avait balade, il y avait une heure et demie de yiddish et puis il y avait une sieste, ça c'était quelque chose de terrible. La sacro-sainte sieste, mais c'était dans toutes les colonies de France, hein. Il fallait se coucher sur le dos. Il ne fallait pas se mettre sur le ventre parce que comme on avait mangé, ça pouvait... On était sur le dos, les bras allongés, dans la semi-obscurité. Ni lire, ni parler, ni... Oh là, ça, c'était quelque chose de terrible. Après, il y avait des jeux organisés. Et le soir, veillée. Voilà. Et le lendemain, on recommençait. Et on passait des journées entières en chantant, en dansant. Alors ça, c'était... Tous les chants passaient, hein. C'était des chansons révolutionnaires, chantaient. C'est nous les bâtisseurs du monde nouveau, c'est nous les semeurs des champs et la graine, c'est nous les moissonneurs des moissons prochaines, c'est nous le futur et c'est nous la vie. Faute-toi flamboyant, drapeau rouge au vent, ça c'est les bâtisseurs viennois. Et il y a la fraternité, il y a le fait d'être ensemble, ça c'est pas les chants révolutionnaires, ça c'est les chants qu'on a en marchant. La main dans la main, qui est devenue l'hymne. Chaque fois que les gosses se séparent sur un quai de gare, ils font la ronde, la chaîne, et chantent tous la main dans la main en cercle enlacé. Et c'est là où ça commence à pleurer, parce qu'ils se séparent.
Vous voulez pas me la chanter un peu, la main dans la main ?
Ah, c'est tous la main dans la main, en cercle enlacé. Ne désunissons pas ce lien d'amitié. Marchons en cadence, la main dans la main.
Qu'est-ce que ça représentait pour soi si fort et si important dans la vie de la colonie ?
D'abord parce qu'on chantait ensemble. Et c'est important de chanter ensemble. Et puis parce que c'était souvent l'amitié. L'amitié et la fraternité, puis on chantait ça de tout notre cœur, hein, les poumons y allaient, le truc. Et de chanter avec les autres, à gauche, à droite, devant, derrière, en même temps, ces chants ont créé quelque chose de très très fort. C'était pas tellement les paroles, ça devait être les paroles aussi. Mais c'est surtout de le faire ensemble.
Alors vous, Léa Mincelas, vous avez participé aux colonies du Skiff à Corvol.
Et moi, je leur apprenais surtout les quelques mots du yiddish des enfants qui avaient été cachés. Et moi, je parle un peu yiddish. Donc, l'après-midi, on se mettait autour d'un arbre. Et puis, je leur disais, ça, c'est une table, ça, c'est une chaise. Et on essayait de chanter un peu en yiddish. Et on est devenus moniteurs comme ça, sur le tas, hein, avec le cœur, avec l'envie de faire partager. Et de se retrouver entre juifs, tous rescapés. On avait été isolés, pas pouvoir aller à l'école, pas pouvoir faire ce qu'on voulait. On s'est retrouvés à vouloir donner, à vouloir partager, à vouloir être ensemble. Hein. Et surtout entre juifs, hein, c'était important pour nous aussi.
Henriette Bagès, qu'est-ce que cela signifiait pour vous, au lendemain de la guerre, de vous investir dans une colonie juive ?
Il ne s'est jamais agi de religion. Ma mère n'était absolument pas religieuse. Enfin, jamais à la maison il n'a été question de religion, puisque je vous dis qu'elle était déjà dans le mouvement à Varsovie. Donc c'était quelque chose de naturel. à la maison avec laquelle on parlait yiddish, à moitié yiddish, à moitié français, enfin...
Le sens que l'on peut donner dans l'immédiate après-guerre, de la volonté de nos mères de nous faire vivre dans un mouvement juif, il est clair qu'il y avait une volonté farouche de faire revivre
le yiddish,
ce qu'on avait essayé de détruire, un peuple et aussi une culture,
une langue,
une littérature. On a voulu annihiler tout ça. Donc, on a, dès ce moment-là, il y a eu cette volonté de la part de tous les gens qui nous ont encadrés de faire revivre.
Pardon, il y avait aussi des réunions de formation politique. L'histoire, je sais pas moi, de la révolution russe ou les précurseurs du socialisme au 19e siècle, la révolution de 48, de 1830, enfin, il y avait aussi des séances un peu théoriques de formation politique.
Est-ce qu'il y a des textes qui étaient des textes importants dans l'histoire du SCIF, qui faisaient un peu l'armature idéologique du SCIF ou des choses
Non, pas vraiment.
Justement, après coup, c'est un reproche que je formulerais à l'égard des responsables de ce moment, de ne pas avoir... était assez rigoureux dans cette formation politique et on ne nous a pas fait lire, étudier des textes, je ne sais pas moi, le manifeste communiste de Karl Marx ou des textes de ce genre. On nous en a parlé, mais on ne nous a pas fait lire vraiment le texte.
Qui t'a critiqué ?
Oui, bien sûr, mais... après coup, hein, sur le moment, ça nous paraissait le fin du fin, c'était formidable. Mais après coup, on s'est rendu compte que ce n'était pas assez rigoureux comme formation, que ça aurait pu être plus consistant.
On voulait nous initier, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'il y avait une volonté doctrinale. Je ne crois pas.
Non, je ne crois pas, non.
Vous rentrez par où, vous, d'habitude ?
Moi, d'habitude, on rentre par la cuisine. Voilà, c'est interdit au public, mais sauf nous. On arrive là, à la salle Léon Blum, qui est la salle d'animation du château où on fait là les veillées générales, les réunions générales d'enfants. On joue ici au ping-pong ou maintenant au baby-foot. À l'époque, il n'y avait pas de baby-foot. Il y avait, je crois, la table de ping-pong.
Mais vous, quand vous étiez adolescent, vous passiez toutes vos vacances ici, à Corbeil ?
Oui. Et les enfants, en général, ils passaient 2 mois. souvent, ensuite, ils rentraient soit chez eux, pour les plus chanceux, qui avaient leurs parents, ou en tout cas un de leurs parents, et pour les autres, ils retournaient à la maison d'enfants, à Brunois ou à Maison Lafitte.
Mais il fallait payer pour venir ici pendant les vacances ?
Non, en principe, il fallait payer, mais les enfants orphelins, je pense, n'avaient pas les moyens de payer. Et c'était financé par les œuvres sociales du Bund, qui étaient elles-mêmes, ces œuvres sociales, financées par les Américains, par le Joint ou le Jewish Labor Committee. Parce que on s'est rendu compte, on n'avait pas l'information à l'époque, on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps que les enfants en France en fait étaient parrainés par des Américains, par des gens, et on a été il n'y a pas très longtemps en Amérique voir les archives et on a retrouvé, on m'a transmis des archives, mon parrain, le nom de mon parrain, ce que j'ignorais totalement. On n'avait jamais dit que ça se passait comme ça, mais il y avait des fiches où on décrivait notre situation familiale. Voilà, Maurice Balch, son père a été déporté, il a tel âge, et il a besoin qu'on finance, et probablement que mon séjour à Corvol a été financé en partie ou en totalité comme ça. Donc là, on arrive dans le hall qui est l'entrée principale, ancienne entrée un peu monumentale, entre guillemets, hein, vous avez le grand escalier. On entreposait ici, moi je me souviens, le bois qui servait à chauffer les poêles à bois, on entreposait ici.
Décision du Skifrat. Premièrement, ceux que la réunion n'intéresse pas seront exclus. Deuxièmement, à partir de cette réunion, Rachel sera tutoyée. Ceux qui ne tutoient pas Maurice devront le faire. Troisièmement, Laurette, qui n'est pas habituée à vivre en collectivité, va essayer de remplir ses services et ses obligations envers ses camarades. Quatrièmement, nous ferons l'impossible pour améliorer l'attitude de Laurette. Cinquièmement, Louis se sentait gêné ici et voulait retourner à Paris. Après une discussion, il se sent mieux et n'a pas la moindre intention de repartir. Sixièmement, nous allons faire un numéro qui comprendra deux récitations, une pièce, des chants, le tout en yiddish.
Rose Hilbert, vous vous souvenez de votre premier voyage à Corvol ?
Bien sûr, c'était la joie. Mais c'est une période où à l'époque, il y avait encore des tickets, les tickets pour le pain, les tickets pour ceci, il fallait se débrouiller. Nous avions un économe qui était un réfugié espagnol, à bicyclette, avec une remorque, il allait dans les fermes, chercher de la nourriture pour pouvoir amener à boire en plus pour les enfants. Alors, ce qu'on avait aussi à l'époque, c'est qu'on recevait aussi des États-Unis du lait en poudre, des fromages, des grands fromages. À la fin, les enfants ne voulaient plus en manger. Bon, mais il fallait du calcium. Pour les enfants, il fallait de ces choses-là qu'on ne trouvait pas encore à l'époque. Et le matin, il y avait un concours de tartines. Vous demanderez à la femme à Charles, Henriette. Il y a des concours de tartines. Elle est comme ça, vous verrez. Hein, elle pouvait manger 17 tartines le matin.
Vous, Rose Hilbert, vous avez été monitrice dans cette première colonie ?
Dans ce temps, on ne nous appelait pas des monitrices, ni moniteurs, ni monitrices. On était des aides. On était là pour aider les enfants. Pas être un petit chef, comme dans les mouvements scouts, hein, mais vraiment pour aider les enfants.
Tout était organisé à Corvol pour responsabiliser les enfants.
Oui, quand un enfant faisait une bêtise, un préjudice à la collectivité, hein, eh bien on faisait un jugement avec un avocat, avec et puis on décidait, elle pouvait être, on n'a pas fait d'exclusion, hein, mais enfin il y avait des sanctions prises quand même.
Alors comment ça se passait, un jugement comme ça ?
Eh bien, les enfants étaient réunis. Hein, dans la salle Léon Blum, il y avait le juge, il y avait les avocats, il y avait les défenseurs, et après ils votaient. Ça votait pour ou contre.
Il y avait un skifrat, ça s'appelait. Ça, c'était aussi sur le modèle de ce qu'il y avait eu en Pologne. Skifrat veut dire conseil d'enfants du skif. Il y avait des enfants élus qui, eux, étaient délégués donc, par leur groupe et qui avaient le droit de venir, de ne pas être d'accord. Et ça se faisait, j'ai un souvenir très net, c'est le mari de Cécile, Henri Steingart, qui voulait absolument qu'un enfant termine son assiette. Et la nourriture, c'était très, très important. Et il ne voulait pas finir ce qu'il y avait à manger. Il a dit, tant que tu ne manges pas, tu ne bouges pas. Tous les enfants sont venus, les uns derrière les autres, en cachette, manger un petit peu ce qu'il y avait dans son assiette. Mais il lui restait un tout petit bout et il n'y avait pas moyen. Alors, il a dit, bon, bah, tu ne bouges pas. Alors, les enfants ont dit, le skifrat a dit, nous faisons grève. Ils ont fait grève, ils ont été dans un coin. Et le soir, il y a eu une grande réunion avec la skifrat de je ne sais plus quel groupe qui a secoué ses longs cheveux noirs et qui a dit, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. On n'empêche pas un enfant. Il ne veut pas manger, il ne mangera pas. Bon, elle a gagné.
Le dernier conseil d'enfant que j'ai vu, c'était le papier hygiénique dans les water. Hein. C'était, est-ce qu'il fallait le mettre? Comment il fallait le... Comment il n'y en avait pas assez? Oh là là, le soir, c'était des réunions houleuses hein, avec les enfants. Hein. Je me souviens de comment il fallait manger, ce qui ne leur plaisait pas. Et nous, ce qu'on leur reprochait aussi, la sieste, ils ne voulaient pas la sieste. La sieste comment? La faire dehors, pas dehors.
Mais ça veut dire que la vie des enfants était sollicitée, écoutée?
Tout le temps. On partageait tout. On partageait. Bon, c'est-à-dire que les vieux, quand même, ils décidaient à la fin, mais les enfants avaient le droit de faire des suggestions hein, sur leurs activités, c'était des choses très pratiques, hein. C'était pas idéologique, les conseils d'enfants.
Tout ce qu'on a vu en 68, toutes les idées d'autogestion, tout ce qui commençait par auto et qui est venu en 68, nous, on le prônait à l'époque. On n'avait pas de matériel pédagogique, on n'avait pas beaucoup de jeux, mais on avait des débats, ça discutait énormément. D'abord, on avait été muets pendant pas mal de temps, on avait besoin d'échanger et de parler, et c'était le lieu où on pouvait le faire. Tout ce qui pouvait toucher à ce moment-là, les gosses, et Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses et qu'ils ne pouvaient pas dire ailleurs, il n'y avait pas... C'est là que ça se passait. Ça pouvait être sur les événements politiques, ça pouvait être sur l'histoire juive, ça pouvait être sur la pédagogie, en général, ça pouvait être sur les points forts de la colonie, sur ce que c'est que la collectivité, comment est-ce que ça se traduit, comment est-ce qu'on vit ensemble. À l'époque, les parents ne parlaient pas tellement avec les gosses. Surtout les parents de chez nous, il y avait un hiatus entre les mères qui étaient restées et les enfants. À l'époque, on ne parlait pas, par exemple, d'éducation sexuelle. Je ne vous dis pas qu'on a fait un travail extraordinaire parce qu'on n'était pas très doués, peut-être, mais c'était la première fois où on pouvait parler de ces choses-là avec les enfants. Il y avait quelque chose de très drôle aussi, la mixité. Les écoles n'étaient pas mixtes. Les lycées n'étaient pas mixtes, les collèges n'étaient pas mixtes. Et chez nous, alors c'était la mixité à tout prix. On portait des shorts quand on allait se promener. Et moi, je me souviens du garde-champêtre de Corvol. Il y avait un short qui descendait presque aux genoux, en velours côtelé, qui m'a dit « Vous n'avez pas honte ?» devant des enfants. Et je ne comprenais pas, c'était ma tenue qu'il ne serait pas déçu maintenant. Donc, la mixité était importante pour nous. Et on pensait que c'était très important ce qu'on faisait. Parce qu'il fallait montrer au monde entier qu'on pouvait être garçon et fille, amis, et proprement et joliment. Et je ne vous dis pas que pour les gens de Corvol, on représentait grand-chose. Hein. Ils n'étaient pas tellement joyeux de nous voir à l'époque. Mais enfin, nous, on pensait que c'était important ce qu'on faisait.
Décision du skifrat. Premièrement, on ne se donnera plus de surnom. Deuxièmement, Aimé, qui n'a pas bien fait sa surveillance la semaine dernière, est chargé du nettoyage des lavabos. Troisièmement, la camaraderie laisse à désirer dans la vie de la maison. La chambre de Jean se dispute souvent. Quatrièmement, nous allons afficher notre nouvelle devise. Un pour tous, tous pour un. Nous allons aussi l'appliquer. Cinquièmement, il faut prendre des sanctions contre ceux qui réveillent les autres.
Des corneilles. Là, ce que vous entendiez, c'était des corneilles. Voilà, voilà. C'est une survivante, parce que les autres sont mortes, tirées par le voisin. C'est là caché par... caché par la végétation, voilà. Il y a la source qui est ici, et il y avait par là ce qu'on appelait l'arbre penché. Et là, c'était un lieu de rendez-vous où on se retrouvait à l'arbre penché. Alors là, l'herbe n'a pas été coupée. Je ne sais plus très bien où se trouve le pont.
À l'heure où nous sommes, la chorale de Cormolles, à l'occasion du 35e anniversaire, aura le plaisir d'exécuter pour vous un chant traditionnel du mouvement. J'ai dit Mirkoumenov. Attends.
Au lendemain de la guerre, les colonies à Cormolles, c'était une façon de se retrouver ensemble. Comment ensuite ça a évolué? Est-ce que les choses ont changé à mesure que les années passaient?
C'est-à-dire que l'après-guerre se terminait dans les années 60. Et donc, la nécessité de ce mouvement était moins évidente.
Tel qu'il était à ce moment-là.
Tel qu'il était, oui, jusque-là. Nous, on a quitté.
Oui.
On a quitté le mouvement en 1961-62, parce qu'on s'est mariés. En 63, on a eu notre premier enfant. Donc, on s'est éloigné. Pendant plusieurs années, on s'est éloigné du mouvement. Bon, on s'est occupé de notre famille. Et beaucoup de notre génération ont fait de même.
On passait les dernières années à se poser des questions. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'il faut faire venir encore des enfants ici? Est-ce qu'on peut travailler de la façon dont on travaille? Est-ce qu'il y a une autre façon? Jusqu'au moment où les choses se sont éteintes. D'elle-même, il n'y a plus eu de gosses à Cormolles. Il y a eu 2-3 ans sans rien. Et puis, 2 ans peut-être. Et puis après, il y a eu le Clège qui a commencé ailleurs qu'à Cormolles. Et puis ensuite, qui a repris Cormolles.
Joseph Amiel, dans les années 60, quand naît cette idée de créer le Club laïque de l'enfance juive, pourquoi ne pas faire... renaître le skiff qui tombait un petit peu en désuétude.
Ouais, alors là, vous soulevez une question, effectivement. Lorsque nous avons créé le Clèche, c'était au début des années 60. Le skiff s'était déjà délité, parce que le skiff avait une orientation politique très précise. Et ils avaient des chansons, nous sommes des enfants de prolétaires et nous en sommes fiers. Ben, ce n'était plus tout à fait le cas au début de 1960. Mes enfants n'étaient pas des enfants de prolétaires. Nous avions évolué dans la société. Alors, pour la plupart d'entre nous, nous avions des professions qui n'étaient pas travailler comme OS à l'usine Renault. Alors, il y avait tout un changement de climat. Le grand soir n'était pas intervenu. C'était bien dommage. Mais bon, il fallait faire avec. Alors, nous avons dit, si déjà nous, occupons d'enfants simplement laïcs et juifs, c'est déjà pas mal. Et les éléments du socialisme doctrinal, l'esprit de solidarité, de tolérance, d'aller vers les autres, ça viendra en même temps. Et quand le clash est né avec les anciens skiffistes, dirigeants du skiff, il y a même eu avec certains d'entre eux et certaines d'entre eux une espèce de petit conflit, mais qui s'est rapidement résolu au bout de quelques années, parce qu'on leur prenait un peu leur héritage. Mais nous avons été contents lorsque nous avons vu arriver au Clège toute l'armada du skiff, les anciens enfants du skiff devenus moniteurs, etc. Ça a permis au Clège d'être revigoré, de bien partir et de se maintenir.
Quand on parle des colonies du skiff, aujourd'hui du Clège, on dit le plus souvent Corvol. Ça veut dire que vraiment l'histoire est incarnée dans ce lieu, dans ce château ?
On a eu aussi cette question qui nous a été posée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, par exemple, à qui on a demandé des subventions pour nous aider à faire des travaux à Corvol, qui nous a dit, mais pourquoi vouloir réhabiliter ce lieu qui coûte cher ? Corvol, ce ne sont que des murs. Oui, ce ne sont que des murs, mais d'abord, pour nous, les murs, c'est important. Pour nous qui n'avons pas ou qui avons peu, nos racines sont courtes. Elles ne rentrent pas profondément dans le sol, nos racines. C'est nos parents qui sont nés en Pologne. Donc on n'a pas de racines en France. C'est un petit peu, curieusement, c'est un peu des racines françaises. On le ressent, certains d'entre nous le ressentent comme ça.
Le skiff, ça a été à court instant, enfin, même dans la vie de quelqu'un, c'est pas tellement. Et ça nous a marqué à ce point. Et toute ma vie a été marquée comme ça. Et ma vie professionnelle, et ma vie de mère, et ma vie d'amitié, Et je crois que je ne suis pas la seule, parce que si j'étais la seule, je me poserais des questions graves. Aussi bien regarder les gens que vous avez vus, Henri, Léa, on s'est retrouvés après à la jeunesse juive, on a fait des choses ensemble, on a travaillé ensemble, organisationnellement. Déjà, on a été marqués, même pour continuer. On me raconte souvent que dans les organisations non juives, des anciens moniteurs ont travaillé aux maisons de la jeunesse et de la culture, dans des municipalités. C'est quelque chose qui les a formés à ne pas être indifférents au monde extérieur. C'est surtout ça, que ça compte et qu'il fallait s'en occuper. Et parmi tous ceux qui sont passés par Corvol, bon, il y a ceux qui ont disparu, ceux-là, je ne sais pas où ils sont, et puis ça ne leur a pas plu. Puis Corvol n'a pas du tout, ils ne se rappellent même plus que ça existe. Mais les autres sont militants quelque part, ne sont pas indifférents. Voilà, c'est peut-être ça qu'on a réussi, à faire des gens non indifférents.
C'était Corvol, la camaraderie en yiddish, avec Joseph Amiel, Charles et Henriette Bagès, Maurice Baige, Jacqueline Gluckstein, Marcel Jarraud, Léa Minzeles et Rose Zilberg. Merci à Henri Minzeles et Guy Monod, à Déborah Assoun, Erez Lévy, Alain Levkovitch, Denise Panigel, Émile Papiernik et au Centre MEDEM. Lecture Jacques Nicolas, mixage Pierre Mine, un documentaire de Catherine Pétillon, réalisé par Charlotte Roux.
Nous poursuivons demain cette série consacrée à l'histoire des colonies de vacances et nous parlerons demain, jour des archives dans la Fabrique de l'Histoire, des archives du PAGEP, donc le pôle qui rassemble comme ça les archives des associations jeunesse et d'éducation populaire. Et nous parlerons beaucoup des années 50 et 60. Vos réactions sur ce documentaire sur Corvol ou sur toute autre émission de la Fabrique de l'Histoire sur le site www.franceculture.com, rubrique les émissions La Fabrique de l'Histoire ou encore sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Et puis pour ceux qui voudraient relire et non pas réécouter certaines des émissions de La Fabrique de l'Histoire, et vous savez qu'il y a toujours ce site fabriquedesens.net qui scripte certaines des émissions de La Fabrique de l'Histoire et d'autres émissions de France Culture d'ailleurs.